Bonjour à tous, très heureux d'être là. Malgré que je sois un ancien, je dois être donc très vieux, parce qu'un ancien, c'est vieux quand même. Mais après, je suis encore là. J'ai mis le ventilateur, parce que c'est bien pour moi, le ventilateur. Si Jerry le jeune, il n'en avait pas besoin, moi j'en ai besoin. En tout cas, je le remercie d'avoir attiré notre attention à la fin de son introduction sur Jésus-Christ. Parce que si j'avais un titre à donner à ma prédication de ce matin, c'est « Regarder à Jésus ». Donc nous sommes dans le droit fil. Il est possible que le Seigneur inspire. Ces derniers mois ont été un peu difficiles pour Marie-Lise et pour moi. Mais nous ne sommes pas les seuls à devoir affronter les dures réalités de la vie, loin de là. Beaucoup parmi nous sont durement éprouvés, et pas seulement des personnes âgées. J'ai donc ce matin, le temps nous y prête, voulu nous rafraîchir un peu en évoquant ensemble cet ami fidèle et tendre, comme dit le cantique. Alors, j'avais le désir de nous inviter, de vous inviter à porter les regards sur cet ami qui marche avec nous, qui nous accompagne au quotidien. Mais lorsque j'ai commencé à réfléchir, 5 minutes, ça m'arrive, même si je suis vieux, je réfléchis, j'étais très perplexe. Dans quelle direction porter nos regards? Regarder à Jésus, oui, mais dans quelle direction porter nos regards? Faut-il parler de l'enseignement de Jésus? Faut-il attirer l'attention sur l'œuvre du Christ? Faut-il nous focaliser sur la personne de Jésus-Christ? J'ai donc essayé de clarifier mes idées. J'ai demandé au Seigneur de m'aider, probablement qu'il l'a fait. Et finalement, j'ai réalisé que je ne voulais pas faire une étude sur l'enseignement, la personne ou l'œuvre du Christ. Non, je voulais simplement parler de lui comme l'on parle d'un ami cher, d'un ami proche, d'un ami à qui nous devons tout. Écoutons ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, le tout début. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire de martyrs. Hébreux 11, vous savez, il y en a certains qui sont cités, on dit même qu'ils ont été sciés, des gens qui ont souffert donc. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. S'il y a une réalité qui nous saute à la figure actuellement, croyant ou incroyant, c'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Certains, malheureusement, sur cette terre actuellement, aujourd'hui, l'expérimentent de façon dramatique. Et parmi ceux-là, il y a très certainement des enfants de Dieu. Mais en plus, comme tout enfant de Dieu, nous sommes souvent confrontés à des épreuves sur le chemin qui monte. C'est un chemin qui monte que nous empruntons. Nous sommes souvent confrontés aux dures réalités du témoignage chrétien. Et nous sommes aussi quelquefois confrontés à des événements qui nous dépassent. Et là, nous avons l'impression parfois, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience terrible, nous avons l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Nous avons l'impression que le Seigneur ne nous attend plus. Nous avons l'impression que nous sommes seuls sur ce chemin de souffrance. Nous attendons la délivrance, nous prions, et rien ne vient. Nous prions pour recevoir la paix, et c'est toujours l'angoisse qui nous saisit. Alors des fois, nous nous écrions comme David, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme ? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. » Et il est vrai que nous sommes là déstabilisés dans notre foi. Nous sommes là désorientés. Nous ne comprenons plus. Pardon. Nous ressemblons à ces deux disciples qui descendaient de Jérusalem à Emmaüs, deux jours après la crucifixion de Jésus. Lisons quelques versets dans Luc 24. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. J'aime ce passage. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondent que Jésus de Nazareth est un prophète puissant en parole, en œuvre, et que malheureusement, il vient d'être crucifié. Ils pensaient que ce serait lui qui allait accomplir, ils pensaient que ce serait lui, le Messie, et qui allait accomplir les promesses qui sont contenues dans toute l'Écriture. Et ils se demandent maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que cet homme-là a été cloué sur la croix. Il a été livré à l'hostilité de la foule, excité par les chefs religieux. Et toutes les espérances de ces deux disciples et d'autres se sont envolées, ou plutôt elles ont été, comment dirais-je, clouées sur la croix, comme le fut leur ami et leur maître. Et alors, il y a là cet inconnu qui s'approche, mais d'où il sort celui-là ? Il ne sait rien des événements importants qui se sont passés à Jérusalem. Mais qu'est-ce que c'est ? Et alors, ils lui disent là leur peine et leur désillusion. Ils étaient sur le point de voir quelque chose d'extraordinaire se produire. Ils étaient sur le point de voir les promesses se réaliser. Mais voilà trois jours qu'il est mort, qu'il a été mis au tombeau. Alors il y a bien quelques femmes, les femmes à l'époque, c'était pas terrible. Il y a bien quelques femmes qui soi-disant ont vu le tombeau vide. Mais personne ne l'a vu. Ça serait intéressant de prêcher sur les femmes, mais bon. La suite de notre histoire nous montre combien la seule présence du Christ apporte la paix, renouvelle l'espoir et réchauffe le cœur de ceux qui s'approchent. Cette idée est résumée à la fin du chapitre 15, et je l'ai souligné, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Et ici, chers amis, comment ne pas nous émerveiller de la manière d'agir de Jésus? Il ne se fait pas connaître immédiatement. Leurs yeux étaient empochés de le connaître, nous dit le texte. Jésus, sans les écraser par la gloire de sa résurrection et de sa divinité, les rejoint dans leurs circonstances. Leurs circonstances d'aujourd'hui, humaines, concrètes, terre à terre. Et eux, ils ne se doutent pas que celui qui marche à leur côté, que celui qui fait route avec eux, est ce Jésus de Nazareth qu'il pleure. Et qu'il est surtout Emmanuel, Dieu avec nous. Quel est le nom que l'ange lui a donné lorsqu'il est apparu à Marie? Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, chers amis, combien de fois n'avons-nous pas cheminé, nous croyant seuls, abandonnés, sans même nous douter que notre est là, fidèle, et qu'il fait route avec nous, qu'il marche avec nous. Combien cette pensée nous réconforte, nous encourage. Seulement, je voudrais dire ici que Jésus ne veut pas être seulement une béquille que nous utilisons lorsque cela ne va pas. Jésus veut être celui qui fait route avec nous tous les jours de notre vie, quelles que soient nos circonstances. Et soyons-en sûrs, soyons-en persuadés, il est bien là sur nos chemins, sur nos sentiers, même les plus escarpés ou même les plus faciles, il est là. Il est avec nous, quelles que soient nos circonstances. Que nous en ayons conscience ou pas, il est là, fidèle à sa promesse. Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Chers amis, ce dont nous avons besoin constamment, c'est de savoir qu'il est avec nous. C'est de le savoir non pas avec notre tête, mais de le savoir avec notre cœur. Il nous accompagne. Par le Saint-Esprit, il accomplit sa demeure dans nos cœurs. Et il reste avec nous. Il fait route avec nous. Ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant, c'est de nous ressourcer en lui, car il est la vie. Si nous plions sur le poids du fardeau, entendons son appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Excusez-moi, il fait chaud. Ce dont nous avons besoin n'est pas simplement pour un culte le dimanche matin, mais tout au long du chemin, c'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus, pour suivre son exemple et apprendre de lui. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et là, chers amis, ce n'est pas à vous que je dis ces paroles, c'est à moi le premier. Parce que je réalise combien j'ai du mal à vivre ces réalités-là. Je ne sais pas si je suis le seul. Ce dont nous avons besoin, c'est de toujours mieux le connaître, car en lui est la manifestation la plus éclatante de l'amour que le Dieu trois fois saint porte pour l'humanité tout entière. Car Dieu a aimé le monde, nous dit Jean 3,16. Dieu a aimé le monde. malgré les apparences contraires, et il y en a aujourd'hui, malgré les dures réalités visibles, palpables, malgré la persécution, malgré tous les maux qu'ont dû supporter les héros des Bruins dont nous parlions tout à l'heure, et que subissent malheureusement aujourd'hui encore beaucoup de nos frères et sœurs dans l'Église persécutée. Malgré tout cela, rien n'échappe à la volonté souveraine de Dieu et à son amour incommensurable manifesté en Jésus-Christ. Et la souveraineté de Dieu, son plan, son dessein, eh bien c'est la réconciliation et non la destruction. C'est le pardon et non la vengeance. C'est la grâce et non la condamnation. C'est pour accomplir cela que le Christ est venu marcher sur nos chemins pour faire route avec nous. En lui, Dieu a mis en œuvre son dessein éternel de grâce, de pardon, de miséricorde. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, nous dit l'apôtre Paul. Quel verset extraordinaire! Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le don total, le don extrême fait à la croix est un gage, une garantie que rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Sauveur. Le don total, extrême fait à la croix nous dit aussi que rien de ce qui nous arrive aujourd'hui n'est étranger au Seigneur. Rien de ce que nous vivons aussi, même si c'est dur, ou même si c'est léger, rien n'échappe à son contrôle. Il tient, dit le cantique, toutes choses entre ses mains. La venue de Jésus dans ce monde, sa vie, son enseignement, sa mort, sa résurrection en sont la preuve et l'attestation. Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, s'écrit « Joyeux, émerveillé !» C'est un passage que nous connaissons par cœur. « Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui par grâce ?» Je disais tout à l'heure que Jésus ne veut pas être une béquille, il veut être notre compagnon de route, notre ami tous les jours, quelles que soient nos circonstances. Or, un ami, c'est quelqu'un que nous connaissons. Sinon, on ne peut pas appeler notre ami. C'est quelqu'un que nous sommes appelés à connaître tous les jours, un peu mieux, un peu plus. Revenons à nos deux pèlerins. Après cette frayeur, fait le confident de leur détresse, Jésus leur parle maintenant avec autorité. Et il leur fait une magistrale étude biblique, comme il n'y en a jamais eu. Il va leur démontrer que le Christ est la clé des Écritures, qu'il en est le centre de la révélation. Le Christ est la clé des Écritures. En dehors du Christ, les Écritures n'ont pas de sens. Je ne vous ai pas choqué en disant ça, mais il est la clé de la révélation de Dieu. Cette étude biblique évoque sa personne et son œuvre, et il va dans Moïse, dans les prophètes, c'est-à-dire dans tout ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Il ne choisit pas quelques passages, mais il leur démontre que toute l'Écriture est concernée par lui, que tout ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament, se tourne vers lui et nous invite à porter nos regards vers lui. Ce faisant, il leur démontre que pour entendre Dieu, il n'y a qu'un seul moyen, se tourner vers le Christ. s'attacher fermement à lui, le découvrir toujours un peu mieux, le connaître toujours un peu plus. Le Christ est le seul par qui nous puissions entendre Dieu, car il est Dieu venant vers nous. C'est pour cela que le Christ est le seul à nous mettre à la portée. Il est le seul à nous mettre à la portée de l'amour de Dieu. Jean dira, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Et par voie de conséquence, le Christ est aussi celui qui met Dieu à la portée de notre amour. Car sans la révélation du Christ, comment connaîtrions-nous le tout autre ? C'est le Christ qui nous le révèle. Et c'est par le Christ que nous pouvons dire « J'aime Dieu ». Je conclus. C'est la contemplation du Christ, Dieu avec nous, dans l'adoration qui nous préservera non de l'épreuve, mais du découragement. C'est la contemplation et l'adoration du Christ souffrant, humilié, mis à mort pour nous, qui nous aidera à ne pas perdre confiance dans l'adversité. Car nous savons qu'il compatit à nos souffrances et qu'il nous y accompagne, car il sait, lui, ce qu'est la souffrance. C'est la contemplation et l'adoration du Christ glorifié, et nous l'avons chanté ce matin, qui renouvellera notre espérance, qui nous aidera à poursuivre fermement, fidèlement, notre chemin sur cette terre. Nous savons qu'il est vainqueur. La croix reste debout. Il y a un beau cantique qui dit cela. Nous savons qu'il est vainqueur à la croix. Et nous savons que notre place est avec lui, auprès de lui, car il fait route avec nous. Le connaître, voilà quelle était la préoccupation et le désir constant et profond de l'apôtre Paul. Je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, dira-t-il aux Corinthiens. Cette connaissance n'est pas la connaissance spéculative. Excusez-moi. Je reprends. Cette connaissance n'est pas la connaissance spéculative de certains qui décortiquent les Écritures dans le seul but d'y trouver des idées nouvelles, inédites. Il faut que ce soit toujours inédit. Une fois, j'ai vu une œuvre d'art. On m'a dit que ce qui faisait que c'était une œuvre d'art, c'est parce qu'elle était inédite. Je ne vais pas plus loin. Ce n'est pas non plus la connaissance de certains chercheurs qui, aveuglés par leur érudition, se mettent au-dessus du texte sacré. Et ils n'y voient qu'un document intéressant, bien entendu, parce qu'il date quand même de plusieurs siècles, de plusieurs millénaires, un document donc intéressant de la culture humaine, mais ils le classent bien souvent dans la catégorie des mythes et des légendes. Non, la connaissance qui est le désir constant de l'apôtre Paul, celle que Jésus a voulu apporter à ses deux disciples d'Emmaüs, à ses deux hommes sur le chemin, cette connaissance, elle est à la portée des plus simples. Si elle touche l'intelligence, comme je le disais tout à l'heure, elle touche aussi le cœur. Et elle doit toucher le cœur, cette connaissance. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait et qu'il nous expliquait les Écritures ? Dirent les deux hommes lorsqu'il les eut quittés. Chers amis, deux choses seulement sont nécessaires dans la vie chrétienne, me semble-t-il. Rester par le Saint-Esprit fermement attaché au Christ, comme le sarment est attaché au cep, voyez Jean 15. Et il y aura du fruit et du bon. La deuxième chose, c'est rester par le Saint-Esprit fermement appuyé sur le rocher de sa parole, car Christ en est le centre. Et alors, la pluie, le vent, la tempête pourront souffler et la maison restera debout. Cela se résume dans le sujet de notre méditation de ce matin, porter constamment les regards sur Jésus. Merci Seigneur, car rien n'a pu t'arrêter dans ta détermination à marcher sur nos chemins pour te faire entendre et nous révéler ton amour en t'offrant pour nous sur la croix. Amen.